I heard a woman scream.
Eh bien, bonjour à tous. Si vous nous retrouvez sur Fréquence Mistral 99.3, aujourd'hui, je reçois Monique Etienne. Monique Etienne, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu pour nous parler, bien sûr, de l'association France-Palestine Solidarité 04, puisque vous êtes vice-présidente et qu'il va y avoir une conférence très bientôt. Alors, un petit rappel de ce qu'est l'association France-Palestine Solidarité 04.
Alors, bon, son appellation, je crois, l'a définie très bien, puisque c'est développer la solidarité avec le peuple palestinien pour l'obtention de ses droits à un État. Selon le droit international, notre axe de travail, ce n'est pas qu'on soit pro-palestinien, c'est vraiment qu'on défend le droit international et le droit de ce peuple à avoir un État dans les conditions qui ont été définies depuis très longtemps déjà par le droit international.
Alors, il y a le 5 avril une conférence. Mais quel est le sujet de cette conférence et qui va l'animer ?
Alors d'abord, je voudrais dire qu'elle se situe dans ce qu'on appelle la Journée de la Terre, que nous célébrons tous les ans. La Journée de la Terre, c'est un grand moment de solidarité avec les Palestiniens, puisqu'elle célèbre, entre guillemets, le terme n'est pas exact, un massacre qui avait eu lieu en 1976 de Palestiniens d'Israël, ce qu'on appelle les Arabes d'Israël. Donc les populations finalement natives et autochtones avant l'existence d'Israël, et que il y avait eu un massacre de paysans qui réclamaient leurs terres qui étaient spoliées et annexées par l'armée israélienne. Donc depuis cette date est symbolique, le 30 mars, c'est la journée de la terre. Alors cette année, le 30 mars, c'était le week-end de Pâques. Donc nous avons reporté cette célébration au 5 avril. Et cette année, ce sera à Digne, à la salle Abbé Ferraud, à 18h30. Et comme 2013 marque les 20 ans du tristement célèbre anniversaire des accords d'Oslo, qui avaient lieu en 1993, je rappelle, entre Rabin, qui était alors président, qui a été assassiné par un extrémiste juif peu après, Yasser Arafat, qui est lui-même décédé depuis et qui a été, aussi on parle d'assassinat, et puis Bill Clinton, qui à l'époque avait quand même essayé de modifier les choses, contrairement à ce que vient de faire Barack Obama, puisqu'on parle même d'une visite touristique de la part d'Obama en Israël aujourd'hui. Et les accords d'Oslo, donc, 20 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Beaucoup de Palestiniens disent que les accords d'Oslo ont été une catastrophe pour la Palestine. D'autres disent qu'ils ont quand même permis de marquer tout au moins la reconnaissance du peuple palestinien et la création d'une autonomie et d'une autorité palestinienne, donc d'un gouvernement palestinien qui a permis quand même un certain nombre d'avancées. Et donc, nous voudrions faire une évaluation de ces accords d'Oslo. Et pour cela, nous avons demandé à Aude Signol, qui est donc une politologue, qui est une spécialiste du monde arabe et de la question des gouvernances locales et des pouvoirs locaux, qui a travaillé de nombreuses années à Ramallah en Cisjordanie et qui est professeure à l'Institut d'études politiques à l'IEP, donc d'Aix-en-Provence, de venir nous faire cette conférence. Donc je pense que ce sera très instructif et surtout très approfondi, puisqu'elle a une pratique aussi de la démocratie palestinienne, de la société civile, des pouvoirs locaux palestiniens. Toutes les conséquences des accords d'Oslo, parce qu'on sait aussi que les accords d'Oslo, malheureusement, ont marqué la fragmentation de la Palestine et le fait que la Palestine est aujourd'hui séparée en plusieurs, qu'on appelle Bantoustan ou des poches qui sont complètement divisées les unes les autres et qui empêchent toute possibilité de développement d'une réelle souveraineté économique, politique, et de territoire en Palestine actuellement.
Alors on va continuer avec la campagne nationale qui commence en parallèle, donc sur la Palestine en danger, sur la colonisation.
La colonisation est véritablement la plaie de la Palestine aujourd'hui, et malheureusement il faut signaler que pour la première fois dans le gouvernement israélien, un gouvernement d'ailleurs vient de se constituer extrémiste, on peut dire, puisqu'il y a pour la première fois des colons qui sont ministres. des colons. Donc, on rappelle que pour le droit international, la colonisation, ce qu'on appelle la colonisation, c'est-à-dire c'est l'implantation de colonies juives dans les territoires palestiniens, donc ce qui est réservé normalement par le droit international pour être et pour définir l'État palestinien, État d'ailleurs qui a été reconnu à l'État d'observateur, mais comme un État à l'ONU à l'automne dernier. Et ces colonies donc sont implantées dans un territoire occupé, donc défini par le droit international et par les conventions de Genève, comme devant être préservées justement de toute colonisation par l'occupant, la puissance occupante étant Israël aujourd'hui. Donc la colonie, ce n'est pas un épiphénomène, c'est véritablement un plan qui est pensé, qui est véritablement organisé au plus haut niveau de l'État depuis 1967 avec le premier plan Allon. Et si on regarde les cartes, déjà a été défini tout ce qui est aujourd'hui cette fragmentation de la Palestine en plusieurs blocs de colonies qui paralysent complètement la circulation de la Cisjordanie et qui finalement aboutissent à l'annexion de près de 60% des 22% de la Palestine historique qui leur restait, hein, donc 60% de la Cisjordanie. Alors cette colonisation ne peut pas continuer, elle a été définie d'ailleurs par Mahmoud Abbas, le président de la Palestine, par tous les observateurs internationaux comme véritablement ce qui empêche la création d'un État palestinien aujourd'hui. Obama, en son temps, d'ailleurs le président Obama, avait demandé le gel des colonies à Netanyahou, qui n'a jamais obtempéré. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'est plus du tout question pour Obama d'exiger ce gel des colonies. Et il est vrai qu'il ne peut pas y avoir de paix, il ne peut pas y avoir de reprise des négociations si cette colonisation continue. Ce n'est pas des petites villes, c'est des villes, par exemple, à La Doumine, c'est plus de 40 000 habitants. Le bloc d'Ariel, qui est au nord-ouest de la Cisjordanie et qui coupe toute la région de Salfit la plus productive au niveau oléicole, c'est 40 000 habitants. Et le bloc Gush Etzion, qui est au sud, entre Hébron et Bethléem, c'est aussi près de 30 000 habitants. Donc c'est véritablement une impossibilité pour les Palestiniens et de circuler et de cultiver leurs terres avec une montée en agressivité des colons qui agresse réellement les Palestiniens. D'où nous sommes très inquiets de ce nouveau gouvernement, puisque le ministre de l'Habitat, le ministre de l'Économie sont des colons. Et le ministre de la Défense est un des plus ardents aussi défenseurs de la colonisation. C'est un de ceux qui a traité les Palestiniens de cancer. Et c'est Moshe Yalon, hein, donc, qui était à un moment chef d'état-major. Donc je pense qu'il faut vraiment être très précis dans la dénonciation de la colonisation, d'où cette campagne qui est organisée donc par la plateforme des ONG palestiniennes, pour la Palestine, non pas palestinienne, des ONG françaises pour la Palestine, qui regroupe beaucoup d'associations qui vont du CCFD, Terre des Hommes, Caritas, à des organisations comme l'association France-Palestine, l'association pour les Juifs, les Juifs français qui sont en opposition avec la colonisation. Et donc, c'est un appel, alors un appel aux parlementaires. Donc, nous adresserons bien sûr à nos parlementaires, hein, M. Castaner et M. Sauvant, et aussi à notre sénateur, pour demander l'étiquetage des produits des colonies israéliennes. Parce que il y a ce qu'on appelle mensonge à l'étiquette, hein, puisque Israël fait passer pour des produits israéliens des produits qui sont conçus et produits dans les territoires occupés, dans ces colonies illégales. Donc nous disons, et le droit international avec nous, que ces produits donc sont illégaux et qu'ils n'ont pas à rentrer dans le quota détaxé qui est des accords d'association avec l'Union européenne. Donc nous demandons à nos parlementaires de se positionner par rapport à cela. Et la deuxième chose, parallèlement, nous allons signer une pétition, donc nous adresser à la société civile française aussi, une pétition pour exiger aussi eh bien, cet étiquetage des produits des colonies et de montrer qu'en fait, ces produits arrivent illégalement sur les marchés français. Et ça, cette pétition sera destinée à notre gouvernement français et à l'Union européenne pour qu'elle assume eh bien, ses propres lois. Puisque dans les accords d'association, entre autres, l'article 2 exige qu'Israël respecte tout ce qui est les conventions et les droits de l'homme. Et ça, c'est une violation des conventions internationales d'étiqueter des produits issus de territoires colonisés.
Alors, vous avez une idée de ces produits
Alors, on avait fait une liste en leur temps, puisque faut dire que cette campagne-là, s'inscrit dans la campagne plus générale dont on avait déjà parlé sur vos antennes, qui s'appelle « Boycott des investissements sanctions ». Donc il y a toute une liste de produits qui montrent qu'ils viennent des colonies. Entre autres, bon, à un moment, nous avions fait toute la campagne contre SodaStream, hein, les fameux instruments servant à faire de l'eau gazeuse qu'on retrouve dans beaucoup de foyers français aujourd'hui et qui sont fabriqués dans la colonie de Maladoumine, donc dans une colonie illégale puisqu'elle se trouve en territoire palestinien. Il y a d'autres produits aussi, des produits de beauté, etc. Donc là, je vous invite à aller sur notre site. Hein,
Alors, vous rappelez le site
www.france-palestine.org. Où vous avez là tous les liens après avec d'autres sites, y compris palestiniens, et vous pouvez trouver la liste des produits concernés. Mmh. Mais ce qui est important, c'est effectivement de bien montrer, surtout, de faire pression sur nos gouvernements et sur nos élus pour que eux-mêmes relaient cette position qui a été approuvée par beaucoup d'États de nouveau. Entre autres récemment par les Pays-Bas, mais il y a le Danemark, il y a d'autres pays importants qui ont accepté cette convention d'étiquetage. Et donc, eh bien, nous exigeons cette franchise sur l'étiquetage des produits. On en parle beaucoup en ce moment pour d'autres affaires, hein, mais faire passer des produits qui sont illégaux et qui sont produits sur le territoire palestinien, ces produits représentent 15 fois plus que ceux qu'on importe de Palestine. Donc on voit bien à partir de là qu'on essaie de couler aussi à travers cela l'économie palestinienne.
Vous êtes très très investi bien sûr pour cette cause. Depuis combien de temps vous baignez dans...
Ça ne va pas me rajeunir parce que c'est depuis 1967.
Ah oui.
Donc oui. Et bon, moi, je suis une enfant de la guerre. Hein. Mm-hmm. Je suis donc née après-guerre, mais juste mes parents étaient très marqués par la guerre. Je fais la partie de ce qu'on appelait les enfants du baby-boom et de la génération 68 aussi, d'ailleurs. Marquée par la guerre, marquée justement par le génocide des Juifs, extrêmement traumatisée. Je me souviens d'avoir vu Nuit et brouillard, je devais avoir 11-12 ans. Donc extrêmement mobilisée par rapport à ce « plus jamais ça » dont on parlait après-guerre. Et en 67, justement, quand ce qu'on a appelé la guerre des six jours, hein, quand Israël, finalement, a envahi les territoires palestiniens et aussi, d'ailleurs, le Sinaï à l'époque et le Golan en Syrie, moi, comme on peut dire 95% des Français, je me suis solidarisée avec les Juifs, pensant que les Juifs étaient encore une fois menacés par les Juifs à la mer, les hordes d'Arabes, etc. Et donc j'ai même été offrir mes services à l'époque à la communauté juive de La Rochelle où j'habitais. Et puis peu de temps après, j'ai eu la chance de rencontrer un Palestinien qui s'appelle Zidine Al-Kalak, qui a été un des premiers responsables de l'OLP à Paris et qui malheureusement a été assassiné et qui m'a expliqué que non, je me trompais et qu'il y avait bien un peuple, parce qu'à l'époque c'était un peuple sans terre pour une terre sans peuple. Et je me suis rendu compte en étudiant aussi que c'est pas vrai, qu'il y avait bien un peuple sur cette terre qui avait été spolié, qui avait été expulsé. Et qu'il fallait garder les yeux ouverts malgré les bons sentiments qu'on pouvait avoir. Ce qui n'empêche pas que je reste, bien évidemment, solidaire et contre tout antisémitisme, hein, et solidaire de tout ce qui a pu se passer pendant la guerre, et de dénonciation. Je dénonce profondément tout antisémitisme et tout racisme d'ailleurs qui est conduit automatiquement à l'exclusion de l'autre, mais je me suis rendu compte qu'il fallait toujours essayer de comprendre aussi les causes des conflits. Et donc, il y a à ce moment-là aussi la revue Les Temps Modernes, qui avait publié le premier, on peut dire le premier dossier véritablement fouillé, qui montrait les deux aspects. Et à partir de là, eh bien, j'ai appris à connaître aussi la Palestine. J'y suis allée en mission plus de 20 fois. Et découvrir, je pense, que quiconque va en Palestine aujourd'hui, c'est un conflit, un des rares conflits, on pourrait dire, qui sont géographiquement visibles à l'œil nu. C'est-à-dire, quand on va là-bas, quand on voit les murs, hein, on nous a parlé beaucoup du mur de Berlin et on était heureux que le mur de Berlin tombe. Et malheureusement, d'autres murs se sont érigés. Celui-ci est particulièrement terrible puisqu'il fait plus de 750 km de long et qu'il est beaucoup plus haut que celui de Berlin et qu'il est dramatique pour l'économie palestinienne. Donc ça, c'est visible à l'œil nu. Les colonies... c'est visible aussi. Donc, quiconque va en Palestine se rend compte de l'occupation, de la colonisation et du droit bafoué. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on est atterré quand on voit la lâcheté, parce qu'il faut bien employer ce mot, de la communauté internationale et des grandes puissances. Quand on voit qu'Obama n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de sa position de départ. Hein. On espérait beaucoup d'Obama avec le discours du Caire. Et on se rend compte aujourd'hui et bien qu'il a reculé, et même reculé gravement, puisqu'il ne parle même plus d'empêcher la colonisation. Et sans, si on n'empêche pas la colonisation, il ne peut pas y avoir de paix possible en Palestine.
Monique Etienne, merci. On va rappeler donc le rendez-vous à Digne, à la salle Abbé Féraud, c'est vendredi 5 avril à 18h30 pour cette conférence débat avec Aude Signol, enseignante à l'Institut
d'études politiques
d'Aix-en-Provence, et ça parlera donc des accords d'Oslo 20 ans après. Quel bilan, quelle perspective. Monique Etienne, merci et bonne soirée.
Merci à vous.